sees it by her. Now she sees it by her. She sees it by her. She sees it by her.
Sees it by her. In bed, and he said.
My face is a tart, cute beat. Oh, it's you. It's not absurd. Sees it by her. Here's a. Take off your pants. Fuck you.
Tonight, boys roll dice for drink doubles and nothing. Imitated rooster for dinner. Get some rage things. Not to again, it was the first time in a mercy just snare, and she feels like, say, the girl she has to be going about. He's
correct, perhaps.
Feels like counterclockwise.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune. Vous êtes bien sur Radio Cause Commune et vous êtes bien dans le monde en question. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Baptiste Brévard et Guillaume Ettlinger. Bonjour Baptiste, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Nous sommes avec vous en direct de New York. Nous venons d'entendre, vous nous avez emmenés dans un quartier particulier de New York. Est-ce que vous pouvez nous dire, au 330 Bloom Street, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ce quartier, ce que fut ce quartier et de qui nous avons entendu la voix?
Alors nous sommes dans le Lower East Side,
oui.
le quartier du Bowery,
et oui.
On vient d'entendre la voix de Darlene Schloss en,
oui.
en 81, How She Sees It By Her.
Oui.
Et le quartier du Bowery, à l'époque, dans les années 60, fin du 19e siècle, avait été en pleine émergence. Et,
fin 19e siècle, c'est un quartier florissant.
Florissant, avec plein de,
d'hommes d'affaires.
Avec et cette artère, la Bowery, c'est l'artère la plus ancienne
de New York. C'est un axe, en fait, qui traverse New York nord-sud. C'est l'axe nord-sud de cette ville américaine. Hein.
Tout à fait. Et c'est là aussi où arrivaient les immigrants dans les années...
Voilà, on n'est pas très très loin d'Ellis Island.
Nous ne sommes pas très loin d'Ellis Island.
C'est là où la plupart des bons hommes échouent
en, oui.
en cherchant le... Fortune aux États-Unis.
Voilà. Ouais. Alors, on est dans ce quartier qui fut florissant au 19e siècle et qui va progressivement péricliter.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça commence à devenir délicat. Nous, la période de laquelle on va parler aujourd'hui,
ouais.
La fin des années 70, on est déjà dans un quartier qui est considéré comme un coupe-gorge
ouais.
par les habitants de New York. Les classes moyennes ont quitté le centre-ville pour aller se réfugier, c'est peut-être le mot, qui se réfugier dans les banlieues. Et tout le quartier est laissé vraiment progressivement à l'abandon.
Alors ce quartier est laissé à l'abandon, c'est-à-dire qu'on n'y fait plus de travaux, il n'y a plus vraiment d'eau ou d'électricité.
Alors c'est plus nuancé, mais par exemple, ouais, il y a des difficultés de chauffage, les drogues sont extrêmement accessibles.
Oui, on y trouve
d'argent.
Très facilement de la drogue, effectivement.
Les propriétaires incendient leurs biens pour pouvoir bénéficier de l'assurance.
Parce que sinon, ils n'arrivent pas à les vendre, qu'effectivement, c'est le quartier malfamé. C'est devenu un quartier malfamé après avoir été effectivement un quartier prospère et florissant.
Mais du coup, il reste ces usines avec des hauteurs de plafond, des
oui.
planchers et de la lumière, beaucoup de lumière.
Donc on a des grands bâtiments.
Des grands bâtiments
d'acier et de verre. Ouais, ouais.
Ouais.
Dont les artistes vont profiter de ces belles
Alors
architectures.
Alors effectivement, les artistes qui ont besoin d'espace vont essayer d'aller dans ce quartier. Ils achètent. Alors dans le cas de Arlene, puisqu'on va parler d'elle, elle achète un immeuble carrément.
Bah, en fait, à la base, comme les prix sont bas et que à cause de cet abandon, l'atmosphère est plutôt permissive. Et
ouais.
Donc évidemment, il y a de nombreux... Depuis à l'époque où Arlene vient s'installer, ça fait déjà quelques années que...
Une dizaine d'années
qu'un certain nombre d'artistes viennent s'installer pour bénéficier à la fois de ces espaces pas chers et grands dont les sols peuvent supporter, par exemple, soit de la danse ou des sculptures très lourdes.
Oui.
Enfin, c'est des trucs très, très factuels. Et elle s'installe en 1970 dans cette ancienne fabrique de mannequins.
Oui, fabrique de mannequins. Si
qui était auparavant
bien.
Une école.
Oui, qui était auparavant une école, oui.
Voilà. Et ça, elle achète ça avec son compagnon pour 58 000 dollars
c'est ça.
En 70, ouais.
Bon. Mais avant, on peut citer, par exemple, il y avait d'autres lofts. C'était pas une nouveauté.
Oui, elle n'est pas.
Elle n'était pas pionnière dans ce genre de démarche.
De démarche, exactement. Oui.
Et on peut citer Artist Space ou The Kitchen, par exemple, qui étaient déjà
implantés.
Le Mud Club aussi.
S'installe au même moment.
Ouais.
Et même les ancêtres, même John Cage, ou déjà au tout début des années 60, on s'installait dans des friches industrielles pour travailler. Quoi. Et elle achète ça avec son compagnon Cowboy Ray Kelly. Qui lui était l'assistant de Rodko auparavant, qui est venu du Texas avec son chapeau et ses bottes qu'il a jamais abandonné. Enfin, nous, quand on l'a rencontré en 2011, il avait toujours son chapeau et ses bottes. Et ils ont acheté ce bâtiment en 70 et ils continuent à vivre dans le quartier. Arline, dont on va un peu évoquer la bio tout à l'heure, Arline, à ce moment-là, elle enseigne dans des écoles, dans des associations du quartier. Elle essaye d'apprendre l'anglais aux enfants. Il y a plein d'hispaniques dans le quartier.
Voilà, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se loger ailleurs. Ils sont logés. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup une concentration de population hispanique dans ce quartier.
L'endroit où est le bâtiment dont on parle, c'est
le 330
Broome Street, et juste entre Chinatown et Little Italy, c'est à peu près. Et il est exactement sur le Bowery dont parlait l'artère dont parlait Baptiste.
On le verra sur les affiches, mais c'est toujours marqué ou très souvent off Bowery.
C'est juste à côté. Le Bowery, c'était vraiment connu. Enfin, c'était un quartier de clochards, littéralement.
Encore un peu aujourd'hui, mine de rien.
Encore un peu
avec la Mission qui est installée. Mm-hmm.
Alors,
on en était que elle s'installe avec son compagnon. Elle achète pour 58 000 $, donc une poignée de dollars, on va dire, un énorme loft. Elle s'y installe. Et qu'est-ce qu'elle va faire D'abord, qui est-elle? Parce que vous êtes des artistes. Je le rappelle pour nos auditeurs. Donc, Baptiste Brevard, vous êtes un artiste, et Guillaume Etlinger aussi, vous êtes artiste, et vous avez rencontré effectivement chez elle Arline. Alors, qui est Arline? Et elle donne des cours, elle est assez engagée socialement, un peu comme à la radio aussi ici. Donc elle fait de l'éducation populaire, elle est très engagée socialement, elle donne des cours d'anglais, elle travaille beaucoup sur l'alphabet. Mais comment on présenterait cette femme?
Arline, elle est née en 1943 à Brooklyn.
Donc à Brooklyn.
Alors, il y a un truc rigolo dans sa bio. Bon, on est un peu sur les. Avant qu'on la rencontre, quand on s'est penché sur le sujet, on a réussi à avoir des infos qu'elle ne nous avait pas données, elle. Mais par exemple, il y a un truc rigolo. Elle est allée voir une performance mythique d'Elvis au Ed Sullivan Show en 56, crois. Et c'est assez drôle. Elle y va avec son papa. Arline, elle est artiste. Elle est peintre à l'origine. Et peu à peu, c'est bien après sa sortie des écoles d'art qu'elle développe ce travail de la performance et du mouvement.
En réalité, elle est vraiment multimédia. Elle part de la peinture, ensuite elle s'essaie à la performance, elle organise des workshops, elle a aussi un petit rôle de commissaire par moment.
Même chez elle,
en elle auparavant. Ensuite, elle va faire des enregistrements sonores. Elle travaillera la poésie, le langage et
la vidéo.
Et c'est en 78, il y a une vidéo d'elle où elle récite l'alphabet.
Ouais.
Et donc on n'entend que le son, et ensuite on voit que l'image de ses lèvres qui bouge sans le son.
Ah oui.
Et au même moment, c'est un peu plus tard je crois, mais c'est une performance en Europe. C'est vrai que c'est assez marrant, parce que du coup au même moment, dans la même performance, elle va jouer avec un groupe, une formation rock classique en fait. Et on est justement là exactement sur cet équilibre entre une démarche de groupe de rock, de pop et d'art de performance audio, poésie sonore et
qui va migrer aussi un peu plus tard là pour le coup dans les années fin 80 début 90 et encore après vers l'utilisation des nouveaux médias tels que l'ordinateur vraiment et les réseaux
Alors, il y a un personnage quand même extraordinaire dont on va parler, mais peut-être on va d'abord faire une pause musicale, mais le personnage extraordinaire dont... Non, ce sera la surprise pour nos auditeurs. Alors, je vous rappelle que nous sommes à New York, au 330 Broome Street, et nous allons écouter justement une chanson qui nous parle de cette ambiance coupe-gorge qui existe dans cette rue et ce quartier de clochard, on va dire, et de paumé, de camé, de... un quartier qui est délaissé à l'abandon, et donc nous allons faire une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons Baptiste Brévard et Guillaume Ettlinger pour leur livre Wednesday at Ace, 330 Broome Street. Alors nous sommes bien à New York dans le loft de Harlin et nous venons d'écouter qui
Weapons,
voilà.
Qui est une formation qui a été publiée par le label 99 Records, dont on va parler peut-être un peu plus tard, et qui a accueilli pas mal de transfuges et de groupes qui ont joué chez Arline au 330 Bomb Street. Liquid, Glenn Branca, Bouche Tétras.
Oui, alors justement, Arline, on a un peu parlé d'elle, et puis de son côté très expérimental, tout ce qu'elle a fait, enfin bon, très avant-gardiste, hein, en même temps très engagée socialement, et donc elle prend cette maison, ce bâtiment, elle le transforme en musée, on va le dire, ou en... Alors en quoi ?
En espace alternatif.
En espace alternatif, voilà, ouais, musée, espace alternatif.
On pourrait appeler ça, et ça n'entre pas forcément même dans cette catégorie, mais aujourd'hui on dirait artist run space, mais c'est pas vraiment le cas, puisqu'on est quand même vraiment chez elle. C'est pas un collectif ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment un squat.
C'est pas un local qu'elle met à la dispo, c'est vraiment chez elle.
C'est chez elle et c'est dans des temporalités très resserrées, c'est-à-dire c'est vraiment chaque semaine avec
voilà,
des moments.
Exactement, parce que justement c'est le mercredi, le monde en question c'est le mercredi, et ben chez Arline aussi c'est le mercredi, et donc elle reçoit comment, est-ce que elle fête le nouvel an, elle fête Halloween, racontez-nous.
En fait ça a commencé en 78-79, Arline, qui donne ses workshops de performance chez elle, ce dont on parlait tout à l'heure, rencontre un de ses élèves, un participant des workshops réguliers, qui la met en relation avec Todd Jorgensen. Todd Jorgensen, c'est un Xerox mail dadaïste qui travaille dans un copy shop, dans un magasin de fourniture d'art au pôle photocopieuse. Donc là, on arrive aux machines.
On arrive aux machines, et j'ai promis à nos auditeurs, à nos auditrices, de parler d'un personnage extraordinaire dans cette aventure dans laquelle vous nous emmenez. C'est bien entendu la photocopie, et on va expliquer pourquoi. Parce qu'on est au tout début, hein, rappelons-le, dans les années, fin des années 70, 60, début des années 80, quand elle reçoit le mercredi chez Arline, chez elle, et il faut bien inviter les gens. Et on les invite en fabriquant soi-même des petits flyers, des petits cartons d'invitation. Et la photocopieuse, là, ça va devenir vraiment...
Effectivement, joue un rôle très important.
Un rôle important. C'est pour ça que je dis que c'était pratiquement notre grand personnage de cette émission.
Alors, dans la photocopieuse, elle est déjà là depuis les années 60. Oui. De nombreux artistes l'ont déjà utilisé comme moyen de production. Et de création artistique. Pour continuer l'histoire, Todd Jorgensen travaille chez Jamie Canvas, ce copy shop, et il décide, ils avaient déjà un groupe, une espèce de
collectif,
le Anarchy,
les amis de Anarchy. Alors avec un jeu de mots, c'était Anne. Et eux, ils organisent des ateliers, des fêtes, des expositions dans des lieux abandonnés ou privés, mais qui sont pas chez Arline. On est un peu avant. Et elle a déjà bossé avec la photocopieuse. Elle utilise ce qu'on appelle c'est un système génératif.
Ouais.
Et il y a des œuvres antérieures d'Arline au milieu des années 70 où elle utilise des procédés de photocopieuse comme la dégénérescence du motif.
Tout à fait. Qui consiste à photocopier d'une photocopie, d'une photocopie, d'une photocopie à l'infini ou presque à l'infini, en moins une cinquantaine de fois.
Exactement.
Jusqu'à ce qu'effectivement l'image bien définie qu'on a au départ, elle se transforme en
nouveau
autre
motif.
Chose, un nouveau motif. Voilà.
Elle est familière avec cette technique, et Todd Jorgensen, lui, dans son copy shop, il aide tout un tas d'artistes, de musiciens à produire leurs images, que ce soit pour des flyers, des invitations, mais aussi pour des petites cassettes, des choses comme ça, donc tous les aspects de print. Et donc toutes ces choses s'agglomèrent dans leur idée des amis de Anarchy.
Oui.
Et dont les lignes directrices sont la diversité, l'intégrité et les interactions entre les artistes et le fun.
Et le fun, oui, c'est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fun. Et c'est pas que les Québécois qui le disent, c'est vous aussi et c'est nous aussi. Et on va un peu en parler. À partir de quand elle commence à recevoir chez elle?
Alors,
le mercredi.
Ça commence
c'est
le 24
octobre.
C'est pas
Madame de Guermantes, mais oui, c'est un peu comme...
Il y a une itération un peu plus tardive qui s'appellera le salon d'Arline, le Ace Salon. Il y a un peu de ça. Et donc le 24 octobre 79, enfin, le groupe a un peu de temps à consacrer à ce projet. Arline rentre d'une tournée en Europe et donc le 24 octobre 79, on a le premier Wednesdays, le premier mercredi chez Ace, où on a une formation berlinoise.
Einstürzen de Neubauten.
Et
Basquiat, dont on n'a pas encore parlé, mais qui à ce moment-là squatte un peu chez Arline, habite chez elle, peint ses vêtements sur le sol. Et lui, à ce moment-là, il utilise des machines, il joue de la batterie et il a son premier groupe. Donc lui, il joue ce soir-là.
Le premier soir du premier mercredi, il y a Basquiat qui joue
exactement.
Et alors, quels sont donc les autres invités?
Ce concert, c'est simple. De toute façon, il y a un témoignage de ce concert qui nous dit qu'il y avait à peu près 4 ou 5 personnes dans le public.
Ouais.
Donc ça commence.
Tranquille. Et puis, mais il y a quand même beaucoup de un turnover important d'artistes qui viennent se produire.
Ensuite, ça va durer pendant de 78 à 80, essentiellement, la période dont on parle, qui se poursuivra dans le livre. Il y en a jusqu'à 84.
Ouais.
Mais effectivement, du coup, pendant ces années-là, il y a quand même beaucoup de mercredis et chaque mercredi, il va y avoir de nouveaux participants et on va trouver aussi bien des musiciens pas connus comme des gens très connus. Évidemment, on peut citer Glenn Branca, Thurston Moore.
Mais il y a plein d'anecdotes rigolotes. Par exemple, Thurston Moore et Kim Gordon se rencontreraient, ou en tout cas passeraient du temps ensemble avant de fonder Sonic Youth ensemble un peu plus tard en 81, chez Arline. C'était un petit peu avant. Thurston Moore, lui, il jouait dans un groupe qui s'appelait The Coachman, qui était un peu un groupe maison chez Arline. Il y a plusieurs groupes sur les deux ou trois années où il y a une activité assez forte. Il y a des groupes qui reviennent régulièrement. On a Liquid, qui deviendra Liquid. Ouais. Un peu plus tard. Liquid, Suicide, Alan Vega et Martin Rev et The Coachman avec Thurston Moore qui reviennent très régulièrement.
Il y a aussi des vidéas, enfin il n'y a pas que des musiciens.
Il n'y a pas que des musiciens, c'est multimédia, donc il y a la musique, mais il y a des peintres,
il y a des projections, il y a de la peinture, il y a de la poésie sonore.
C'est vraiment comme ça qu'elle le voyait, je pense. Enfin, pour elle, c'était vraiment les artistes qui deviennent musiciens et vice versa. En fait, ils échangent autant leurs outils que les contextes de production et de diffusion de leurs œuvres.
Donc en fait, c'est un espace de co-working.
Alors ça, c'est un peu un gros mot, ça.
Elle faisait du speed dating.
Peut-être que le co-working est le petit enfant mutant et dégénéré
le capitalisme a raison de tout.
Exactement. On peut quand même parler de, puisqu'on est à la radio, de Jackie Apple, pionnière de la radio, qui était chez Arline. On peut aussi parler de Mary-Jane Leach, la compositrice ou moins célèbre, mais célèbre quand même, et Maureen Napi, vidéaste.
Et qui n'était pas chez elle?
Alors,
qui n'était pas chez elle et qui a dit je ne viendrai jamais chez elle, ou qui a regretté toute sa vie de n'avoir jamais été chez Arline?
Alors là, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle, quand les gens venaient la voir, puisque le 330 Boom Street, c'est très proche du fameux CBGB, un club qui était bien connu à l'époque, où énormément de groupes voulaient jouer mais étaient refusés parce que la programmation était pleine. Frappait à la porte d'Arline et Arline avait pour...
On disait qu'elle avait un grand cœur.
En tout cas, elle nous disait, elle racontait que s'ils étaient gentils, elle disait oui.
Ah oui, c'est ça. C'est si elles étaient... Alors il fallait lui dire gentiment... Basquiat, il était gentil, donc elle l'a longtemps hébergé, alors, c'est ça.
Basquiat, nous, elle disait, oh, il était trop mignon. Enfin, c'est vraiment so cute.
Oui.
Et non, elle aimait bien les chaussettes fantaisistes. Ça a aidé à se faire apprécier par Arline.
Bon.
Mais du coup, elle, pendant ce temps, donc ça, c'est tous les mercredis. Le lundi, il y a toujours des workshops de performance où elle accueille à la fois des enfants, des gens, ils chantent l'alphabet et ils dansent. Enfin, c'est voilà. Le mercredi, on a de la musique en direct et des performances et des projections. Et le samedi, on a ce qui est plus un salon avec des œuvres, donc pas mal de photocopies, de choses comme ça, et des œuvres physiques, en fait, des accrochages, quoi, plus ou moins. Mais elle continue à bricoler partout à New York. Elle dit à des moments, ce que je fais, c'est comme le crime, en fait, ça arrive partout, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, donc c'était un peu ça.
C'est comme le crime. On va écouter Liquid.
On écoute Liquid.
Et une petite pause musicale. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Baptiste Brévard et Guillaume Ettlinger qui nous parlent de Arline à propos d'un livre qu'ils viennent de publier aux éditions Anamosa, Wednesday at Ace, c'est ça, j'ai bien dit, 330 Broome Street. Alors, on vient d'écouter une musique Liquid, c'est quelle ambiance, quelle atmosphère? Est-ce que c'était caractéristique un peu de ce qu'on entendait chez ou d'une vague particulière?
Alors, Liquid, qui ont joué, qu'on retrouve régulièrement au 330 Broom pour les Wednesday Days, c'est un groupe qui s'est appelé d'abord Liquid Idiot, qui s'est ensuite, qui a eu une itération avec une douzaine de membres, qui c'était le Idiot Orchestra, et qui ensuite est devenu ce qu'on vient d'entendre, Liquid. Et on pourrait qualifier, en gros, à ce moment-là, on parle on utilise le terme no wave, qui en gros, schématiquement, sert à désigner des groupes qui explorent les dispositifs humains et instrumentaux du rock ou des musiques pop, sans systématiquement en adopter les formes. Donc ça, voilà, on a une espèce d'énergie rock'n'roll et à la fois des outils qui viennent du minimalisme, des outils d'enregistrement légers.
On est toujours dans la recherche, l'exploration,
la fabrication
l'improvisation. Passe d'une chose à l'autre, enfin beaucoup de créativité.
Dans une continuité,
tout à fait.
En fait, chez Arline, on détourne, on acculture, c'est l'acte de création a une...
C'est un processus, d'abord c'est un processus et on
et
sait ça.
Et qui ne peut pas attendre. C'était un acte qui devait se produire. Elle disait souvent just do it.
Et cette spontanéité, elle est fausse parce qu'elle est mise en scène. C'est vraiment dans cet équilibre-là, c'est-à-dire que on va avoir des choses justement très spontanées, plein d'énergie, des collages à la fois visuels et sonores. Les choses qu'on trouve dans les flyers qui sont dans le livre et dans les sons qu'on vient d'entendre. Et c'est quand même évidemment beaucoup de travail et beaucoup de...
Évidemment, mais enfin bon, comme souvent en art, ce qui paraît comme ça surgir tout à fait spontanément, c'est en réalité effectivement peut-être de l'intuition, mais aussi beaucoup de travail.
Évidemment.
Et alors ce travail-là, peut-être quand même on pourra revenir sur faire des allers-retours dans le temps ou passer d'un art à l'autre, puisqu'après tout on passait de la musique à la peinture et de l'exposition à tout ce qu'on veut dans chez Arline, voilà, exactement. Quand même, on pourrait dire que vous avez rencontré Arline, vous avez été chez elle et vous avez découvert un matériel extraordinaire qui était perdu dans quoi ? Dans des tiroirs dont plus personne ne s'occupait.
C'était perdu et pas vraiment, puisque du coup, c'était quand même, c'est là où c'est un peu, ça, normalement, tout a été fait.
C'était des archives qui vous attendaient.
Voilà,
c'est ça.
Une certaine partie était bien rangée, toute prête à ce qu'on vienne
y farfouiller.
Il faut imaginer qu'à la base, ce sont des flyers qui sont pensés pour la diffusion d'événements et qui n'ont donc plus ou moins qu'un rôle d'éphéméra.
C'est-à-dire qu'après
le fait que ce soit passé,
c'est fini. Il n'y en a plus d'usage. Voilà, c'est... Ouais.
Surtout dans une époque où en fait la notion même de... Je veux dire, à cette époque-là, il fallait littéralement être là pour pouvoir bénéficier de la performance, sinon on avait tout loupé. Et du coup, les flyers, le fait qu'ils aient été gardés, c'est une archive qui n'était pas vraiment abandonnée, poussiéreuse. Il y a même d'autres personnes qui se sont penchées un petit peu. Il y a un documentaire qui doit être fait sur elles. Donc c'était pas vraiment perdu. Mais qu'est-ce que c'est, ces flyers ?
Et même de la part des artistes eux-mêmes, il y avait une sorte déjà de fétichisme déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à les conserver. Il y avait vraiment la conscience du fait que c'était des objets importants existait déjà. Ils n'étaient pas voués à disparaître forcément dès le départ.
Sont vraiment des flyers noirs et blancs avec une diversité de paysages graphiques exceptionnels. Mais en même temps, avec plein d'éléments qu'on peut retrouver régulièrement. Évidemment, l'adresse.
L'adresse 330 Broom Street. Parce que c'est là, évidemment, que ça se passe. C'est là qu'on est convié.
Exactement. Le A, cher Arline.
Chez Arline, bien sûr.
On peut retrouver aussi un motif, l'œil.
Oui.
On peut retrouver des tampons.
Des tampons
Arline Schoss, Todd Jorgensen. On peut retrouver une cassette aussi, ouais, qui revient
à chaque flyer. Il y avait parfois jusqu'à 4 ou 5 versions alternatives pour chaque événement, selon, ouais, l'énergie qu'ils avaient à mettre cette semaine-là dans le...
Et le nombre de personnes aussi qui
impliquées. Parfois, il y a des affiches pour la même date, mais dont l'univers graphique correspond à l'artiste. Souvent, il y a des méthodes d'altération manuelle ou mécanique, en fait.
Mm-hmm.
Le processus dégénératif qu'Arline aimait utiliser, on le retrouve à plusieurs reprises, mm-hmm, dans la construction. On utilise beaucoup les cut-up, on trouve des tournements un peu situ, des références dada. Il y a vraiment de tout, des allusions, il y a des filiations, des hommages un peu partout, des choses disséminées. Il y a pas mal beaucoup de caractères, beaucoup d'écritures manuscrites, en fait.
Ouais.
Pas mal de choses en petits caractères. Et à la fois, on a un truc, un ensemble hyper hétéroclite et très cohérent.
Oui, il y a un principe de composition évident, ouais, quand on le regarde, ouais, le flyer. Enfin, c'est pas...
Alors, qui semble évident.
Mais il y a quand même, enfin bon, si on, oui, sent, oui, si, enfin, oui, je veux dire, on sait qu'on est en face d'un dessin, de quelque chose, voilà. Et parfois, donc il y a l'heure aussi, il y a l'adresse qui est inscrite, chez qui ça se passe, donc l'heure est inscrite, et puis le prix d'entrée.
Oui.
Qui peut varier.
C'est pas vraiment le prix d'entrée. Enfin, il y a parfois des prix d'entrée. C'est assez rare,
parfois,
parce que la plupart du temps, oui. Enfin, c'était vraiment le principe du
bring your own.
Donc, en gros, les gens soit payaient une entrée, mais ne consommaient pas, consommaient leur propre marchandise.
Ouais.
Et donc, les entrées étaient relativement peu chères. Ça dépend des soirées. Il y a des moments.
C'était souvent pour Halloween, parce que le nouvel an suivait aussi l'histoire du calendrier.
Bah oui, calendrier, d'accord.
Plus encore que le calendrier, les événements historiques, on va dire. Et donc, finalement...
Je me souviens d'avoir vu des flyers où il y avait marqué, si vous venez les mains vides, ce sera, je ne sais pas moi, 5 ou 8 dollars. Et puis, si vous venez avec la boisson ou à manger, ce sera que 5 dollars. Mmh. Mais alors, ils mangeaient et ils buvaient en même temps que certains faisaient des performances. C'était comment, là?
Oui. Chez le Loft du 330, il y a un espèce de... Ce que Carline appelait le Sculpture Garden, son jardin des sculptures, c'est le toit terrasse. Alors, c'est là, nous, quand on y est allé, c'est là où on dormait, dans une tente. Enfin,
ouais.
Vous
avez carrément invité parce que vous étiez gentil,
cute. On pourra en parler à la fin, mais si on s'est retrouvé là-bas, c'est parce qu'on n'avait pas de maison. Donc, on est allé vivre. Enfin, on a vécu un certain temps.
Mais combien de temps vous avez vécu?
Un mois.
Vous avez fait mieux que Basquiat, dites-nous.
On ne sait pas combien de temps il est resté.
Non.
On ne sait pas.
Non. Mais nous, deux mois, enfin moi, Baptiste, deux mois. Ouais. Et à des moments, c'est pareil. Moi, c'est Baptiste qui m'avait refilé ce plan. parce que, voilà, en me disant,
tu peux aller à New York si tu sais pas où dormir.
Il allait à New York, il savait pas où dormir.
J'allais à New York et je savais pas où dormir. J'avais un stage avec un illustrateur et j'avais pas les moyens de me loger à l'hôtel ou.
À New York, oui, c'est donc, particulièrement cher. Donc effectivement, on peut arriver à condition d'avoir une tente, on peut arriver.
Ah non, c'est la tente déjà.
Elle était déjà là.
Déjà là, ouais. En plus. Ouais. Ah oui, il n'y avait même pas besoin de.
Alors bon, quand il y avait trop de monde, moi j'avais en plus ma tente, elle était contente.
Ah oui.
Mais vous étiez... que des gens du. Enfin, quand on reste un peu de temps là-bas, il y a des gens qui vont et qui viennent. C'est-à-dire tout un tas de copains d'Arline qui viennent du monde entier ou des États-Unis. Quand ils passent à New York,
ils passent chez elles.
Ils passent une nuit.
Ouais. Ah, en plus, on reste, on dort.
Souvent,
on dort, ouais. Et alors, cet immeuble, il existe toujours?
Alors, il a été vendu récemment à Hugo Rondina, un artiste, et il existe toujours, mais il n'est plus dans son jus, du tout.
D'accord.
Et du coup, tout le hall d'entrée dans lequel les flyers étaient annoncés un petit peu, ce qui s'était produit pendant les Wednesdays at Ace, ça a disparu. La façade qui était très... c'était le Lower East Side avec des graffitis, des choses comme ça, c'est complètement...
Elle a été ravalée.
Ça a été ravalé.
Dans le bouquin, en avant-après, on a une petite vignette dans le bouquin avec 2010-2020, à peu près, voilà.
Et surtout, même, ce qui est assez marrant, c'est de voir tout l'entourage. Aujourd'hui, juste à droite du loft, quand on le regarde, c'est un studio de tatouage dernière génération...
Ouais, mais bon, on faisait pas le tatouage, hein, Charline. Mais on aurait pu.
Je sais pas, il devait en. Oui, sûrement.
Cowboy, il était tatoué. Hein.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah oui. Cowboy, il habitait dans la cave. En fait, il louait. Je sais pas si on peut dire ça à la radio. il sous-louait son appartement parce qu'ils sont séparés.
C'était pas Airbnb quand même.
Non, bien sûr.
On peut le dire alors.
On est quand même pas encore là, mais il s'était aménagé la cave pour lui. Ouais.
De temps en temps, il avait besoin de s'isoler.
Sa man cave, exactement.
C'était sa man cave. D'accord. Et alors, mais quand même, dites-nous comment ça vous est venu cette idée, Baptiste, vous dites à Guillaume que s'il ne sait pas où dormir, il peut aller là-bas. Mais alors, qui a rencontré, qui a entendu parler Arline, comment vous l'avez rencontré, comment
simple, on a passé un entretien. On était gentil et mignon. Et
vous avez frappé à sa porte, voilà,
avec des chaussettes
so cute,
colorées,
avec des belles chaussettes.
Voilà. On a été introduit par tout le réseau. C'était par une chercheuse, la chercheuse Nathalie Magnan,
oui.
avec qui on était aux Beaux-Arts à l'époque.
Oui.
Et qui nous avait donné ce plan, en fait.
Ce plan d'enfer.
Enfin, ouais. C'était une connexion, finalement,
d'accord.
C'était le même réseau. Et du coup, on rencontre Arline. Elle nous explique un petit peu ce qu'elle faisait, comment ça se déroulait. Et on se dit, ce serait bien quand même de montrer, finalement, ce qui reste des événements, ce sont les images, les flyers.
Ouais. Qu'est-ce qui reste, plus qu'effectivement des concerts.
Exactement, qui n'ont peu ou pas été enregistrés du
tout. Absolument.
Et du coup, quand on lui dit ça, elle nous répond, just do it.
Just do it. c'était.
Et c'était vraiment une. Quand on trouve ces objets-là, enfin nous, on travaille. Notre boulot est un peu lié à ça, on travaille avec l'objet de l'affiche et ce genre de.
Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de votre boulot et vous êtes extrêmement discrète. Tout ce que vous dites sur la quatrième de couverture, c'est que vous êtes artiste.
Parce qu'on est multimédia.
Ah, vous êtes multimédia. Voilà. D'accord. Donc artiste, c'est bien. C'est le mot.
En tout cas, on travaille souvent là-dessus. C'est un des motifs dans le bouquin d'Arline qui est récurrent et pour nous c'était presque pas un mode d'emploi, mais en tout cas ça nous a permis d'avancer, de rencontrer Arline et son travail et de trouver tout, comme on aime bien documenter des collections avec Baptiste, c'est un des trucs qu'on fait, on documente des collections d'autres personnes.
Ouais. On collectionne les collections
et ces ensembles comme ça cette idée de l'objet multiple et de la série, de sa chronologie, ça nous intéresse et forcément tout était là. Les affiches qu'on voit dans le bouquin, elles ressemblent un peu, on dirait un journal intime du bâtiment du 330.
Tout à fait, ouais. Ouais, ouais.
C'est vraiment lié, comme on disait tout à l'heure, avec des événements du calendrier. On a lié à la petite et à la grande histoire, on a l'investiture de Reagan à la Maison Blanche en début 80, qui correspond à un flyer où on a juste une image d'explosion avec marqué Information at Hayes, information chez Arline. On a réveillons de nouvelle année, les fêtes d'Halloween. C'est un vrai, c'est un voyage quoi dans une période donnée, il y a 40 ans.
Et ce voyage, on l'a fait avec deux autres auteurs.
Ouais.
Donc si c'est bien nous qui en découvrons.
Donc
la collection.
Tout à fait.
On a invité deux autres personnes à communiquer, à parler en tout cas d'un point de vue. Parce que ce livre, on ne peut pas le classer dans une librairie. Ils ne savent pas où le mettre, si c'est de la sociologie, de l'art, de la musique.
Et le multimédia, c'est compliqué quand même.
On a papoté avec un libraire, il nous a dit que c'était délicat pour lui. Il ne savait pas où mettre ce bouquin. Quoi.
Ah,
il ne savait pas dans quel rayon le ranger, si on a trouvé que c'était super sympa. On a bien aimé.
Dans un présentoir devant.
Déjà. En vitrine.
Quand on ne sait pas, voilà, en vitrine.
Et surtout que la couverture est belle. Il s'agit de la réponse d'Arline Schoss à la lettre du BMI, qui est l'équivalent de la SACEM, lui reprochant de ne pas avoir payé les droits d'auteur pour le club de diffusion. Et elle répond que A n'est pas un établissement, Arline est une personne.
C'est une idée, un concept.
C'est un musée archéologique.
Un objet archéologique contemporain.
Ouais. Et du coup, elle dit ça se passe chez moi, mais aussi ailleurs, sur des ferries, dans le métro, dans la rue.
Ouais.
les artistes font leur propre travail.
Ouais.
Certains parfois disent que je suis un club. C'est peut-être pour ça que vous me contactez.
Ouais. Ouais. Et elle est, enfin, on l'a.
Et finalement,
on...
elle a pu ne pas payer.
On n'a pas eu le fin mot de l'histoire.
On n'a pas eu le fin mot de l'histoire.
Et ce qui est, enfin, pour nous, c'est une description assez synthétique
de ce que
cette lettre a noté, ouais. Même de ce qu'est l'état d'esprit qui anime, ouais, la scène new-yorkaise à la toute fin des années 70. Ça ressemble, enfin, on a vraiment tout est là. Donc, du coup. C'est sur, ouais, la couverture.
C'est sur la couverture. Voilà. On vous invite à regarder. Ouais.
Et du coup, à lire le texte de Pauline Chevalier, donc historienne, qui parle de l'histoire du quartier, des lofts. Elle avait déjà écrit un livre sur les espaces alternatifs, ouais, à New York.
Ouais.
Et une interview avec Guillaume Loisillon, ouais, là, du coup, qui est plus branché musique, label.
Guillaume Loisillon, c'est un compositeur, un musicien, il est maître de conférence à
il
Paris
a un label
8,
aussi.
Et il s'occupe d'un label. Et en fait, on est bien tombé sur Guillaume parce que Pauline, elle est historienne de l'art. Guillaume est musicologue, donc on avait déjà. Ouais.
Ils sont tous les deux allés à New York.
On pouvait rallier.
Et c'est un autre Guillaume que vous, Guillaume.
Oui,
ici,
non, c'est pas le même.
Et
Loisillon, on papote avec lui. Et il se trouve que Guillaume Loisillon est allé à New York comme jeune étudiant,
ouais,
pour aller essayer de diffuser ses trucs dans des radios alternatives, aller écouter justement ce qui se passait dans les lofts. Et Guillaume Loisillon était à New York en 1980, au moment où les Wednesdays at Ace arrive dans un rythme un peu plus de croisière, un peu plus calme.
Et prennent une autre tournure.
Ouais. Et il n'est pas allé là-bas, malheureusement.
Ah ben voilà, je disais tout à l'heure qui n'y a pas été et regrette toute
Guillaume
sa
Loisillon.
Vie de ne pas y avoir été. On y arrive,
Guillaume
voilà.
Loisillon. Depuis,
voilà.
Il reste dans sa cave.
Elle sort plus.
Dans la cave de cow-boy.
Non, pas la même,
une autre.
Et Guillaume nous a aidé à retracer tout un tas de connexions justement avec l'histoire de la musique contemporaine et surtout le rapport très fort des gens avec les machines, avec la technologie,
oui,
avec même des objets, simplement des objets comme la guitare électrique.
Le circuit bending, le, ouais, fait de démonter des objets qui faisaient du son. Et de prendre son fer à souder, de changer les soudures et,
ouais,
du coup de faire de nouveaux sons avec.
Ça bricolait aussi. Hein.
Et ensemble, tous les trois, c'est ce que Pauline nous disait, on essaye de faire quelque chose qui ressemble un peu à de l'archéologie,
ouais,
autour de ça.
Bah oui,
c'est, voilà, et parce que les seules traces qu'on a, à part les flyers, c'est des brèves de journaux de l'époque. On n'en a pas parlé, mais
qu'est-ce que disaient il y avait des articles dans la presse.
Il y avait quelques petits articles, et puis surtout, il y avait des supports éditoriaux pour diffuser ces boulots un peu à côté, un peu parallèle aux institutions. Il y avait des revues comme Just Another Asshole ou Artright,
right,
ou des structures qui ont édité des projets d'Arline. À l'époque, ouais, puisque le papier était un des vecteurs principaux de.
Et quand Arline, elle regarde cette période rétrospectivement, elle en dit quoi ?
Visiblement, qu'elle s'est bien marrée.
Qu'elle s'est bien marrée, ouais. Que c'était une autre époque. Elle dit quoi ?
C'était un moment.
Un moment.
Un moment, oui. Elle
pas
a toujours...
de nostalgie, non, elle est toujours vers l'avant, oui.
Oui, et puis, bon, après, Arline, elle a beaucoup, beaucoup filmé, donc en fait, pour,
ouais,
elle, c'était juste je pense que. En tout cas, je pense qu'elle regrette rien.
Oui, oui, oui.
Et
d'autres témoignages d'artistes qui ont participé à ces mercredis
Il y a Thurston Moore qui a écrit il y a une interview où il parle justement de ces mercredis chez Elise. Il n'y en a pas tant que ça. Non.
Il n'y avait pas tant que ça de public.
On trouve plein de témoignages au détour de... Mais c'est jamais une explication très... Ouais, on a de temps en temps entendu sur un bonhomme qui raconte une soirée chez Arline, mais non, on n'a pas tant d'infos que ça. Nous, on a eu des infos sur le déroulement des événements et la façon dont ça s'est construit, les autres bonshommes avec qui elle organisait tout ça, par des gens qui entouraient Arline et qui sont restés proches d'elle à l'époque où on l'a rencontrée, donc en 2011,
mm-hmm,
et 2014 quand on est retourné là-bas pour documenter les trucs. Je pense à Sir Rodney Sir ou Stuart Ginsberg qui assiste Arline un peu. Arline Et nous, c'était un peu délicat toute la fin du processus, puisque entre-temps, elle est tombée dans les escaliers. Donc le loft a été revendu en grande partie pour payer, enfin on est aux États-Unis, pour payer une aide à domicile, etc.
Ouais.
Donc,
entre le moment où on a eu l'idée et le moment où le livre est sorti, où les flyers sont présentés de manière chronologique, ouais, il y a eu 10 ans.
Ouais.
Et entre-temps, Arline, malheureusement,
ah ouais,
mais elle est toujours là.
Elle est toujours là, mais simplement, elle n'est plus au 330 Bond Street.
Elle a quitté le 330 sous la pression.
Sous la pression, effectivement, immobilière, ouais, financière. Et ben justement, alors donc vous êtes arrivé juste à temps pour un peu sauver ça. C'est à la fois une archéologie, ouais, d'une époque, une excavation. Hein, on avait tiré des tiroirs, tous ces flyers-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est une...
Bah, c'est
trace
un peu
matérielle.
Pauline, elle parle de collision temporelle, puisque ouais, du coup, c'est vraiment là, notre vision, notre rapport à ça. Nous, on est un peu évidemment biaisé, puisque c'est une amie, et c'est le personnage aussi, ouais, qui est toute sa folie, et qui a guidé tout cet objet-là. Ouais. Et c'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas une vision très très objective de la nature des choses.
Mmh.
Mais elle est ce qu'elle est.
Alors, je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter Bouge tes traces et on se retrouve après, avant de conclure notre émission.
Sitting in my bedroom late last night. Got into bed and turned out the light. Decided to call my baby on the telephone. Was a busy tone. It's off the hook. 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 Talking so long, he upset my mind. Why is he talking such a long time? Maybe he's sleeping, maybe he's ill. Phone disconnected, unpaid bill. It's off the hook. 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 Don't wanna see him, afraid of what I'll find. Letting him upset me all the time. Back into bed, started reading my book. Take my phone right off of that hook. It's off the 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 hook.
Operator, can you check this number for me, please? I've been dialing for hours, and all I get is a busy tone.
It's off the hook. It's off the hook. It's off the hook.
Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Baptiste Brévert et Guillaume Ettlinger qui nous parlent de leur livre et de constitué autour du travail d'Arline et des réceptions qu'elle faisait dans son loft au 330 Boom Street. Et ça a donné un livre qui reste un document exceptionnel, puisque le lieu et l'adresse dont vous parlez n'existe plus en tant que tel. Arline habite désormais ailleurs et c'est publié chez Anna Moza, on l'a dit. Qu'est-ce que, pour terminer notre émission, vous avez envie de dire à vos lecteurs, à nos auditeurs, qu'est-ce que dans cette expérience d'écriture, de livres, de compulsions, d'archives. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ?
Bah déjà, Arline, elle aurait dit l'art, c'est l'action et les objets, c'est que des artefacts et tout ça, ça pas forcément. Enfin, c'est pas si important.
Donc, oui. Enfin, c'est pas si important, mais enfin, on est bien content de l'avoir quand même. Parce que,
après,
sinon,
l'enthousiasme ne vaut pas nostalgie.
Tout à fait.
Parce qu'on aurait, on peut avoir. Aujourd'hui, il y a ce déplacement un peu de légitimité culturelle qui porterait peut-être à regarder ces documents comme des archives historiques, etc. Et on ne sait pas.
Il ne faut pas oublier que ce sont des flyers pour annoncer un événement qui se tient une fois, qui ne se répète pas.
Exactement.
Unique, donc.
En fait, c'est ce qui reste. C'est que c'est les images des événements. C'est ça qui nous raconte au plus près ce qui s'est passé dans à cette adresse pendant 4 ans, pendant 3-4 ans, au milieu des années 80, une période riche en.
Non, mais en quoi un document parle, peut suggérer une histoire qui elle-même était une improvisation sur place, enfin une création unique, on va dire, quelle qu'elle soit, et qui donc n'était pas destinée à être reproduite aussi. Ouais, non, il n'est pas d'accord.
Bah, le truc, c'est que Arline, elle travaillait beaucoup avec la vidéo et il a raison de ne pas être d'accord. Elle travaillait beaucoup avec la vidéo, elle filmait tout. Elle filmait tout le temps, elle a fait des docus. Après, un peu après, quand c'est devenu Ice Wave, elle a fait des docus sur William Gibson, par exemple. Ouais. Et c'est intéressant parce que.
Frank Kepler to Cyber Space.
Et William Gibson, c'est l'idée de cyberpunk. Enfin, on est. L'idée d'un réel technologique absolu dans lequel des individus essayent de se débrouiller tant bien que mal en utilisant les réseaux et Arline elle utilisait au même titre du coup que beaucoup d'artistes femmes parce que c'était des pratiques qui étaient pas contrôlées dans l'art en tout cas par une forme de patriarcat et d'où la vidéo, la poésie sonore etc et où on voulait en venir j'ai oublié.
Eh ben on va se quitter.
Bah ouais, c'est
le mot de la fin.
C'était le mot de la fin.
On va en venir que c'est le mot de la fin. Et on se quitte. Je vous remercie de votre participation, Guillaume et Baptiste. À très bientôt pour une nouvelle émission.
Avec plaisir. Merci de nous
avoir invité. Et merci pour ce petit voyage à New York chez Arline au 330 Broome Street. Merci en régie à Olivier. Merci pour les billets d'avion aussi.
Merci Olivier.
Voilà. À très bientôt pour une prochaine émission.